Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, vous êtes accompagné, Mathieu, des grandes voix d'Europe 1. Michel Cotta, Catherine Ney et Robert Namias.
Et vous allez peut-être intervenir au 39-21. N'hésitez pas ce soir. D'abord autour des Gilets jaunes. Étonnante séquence cet après-midi. Ce rendez-vous proposé par Édouard Philippe, Premier ministre, à 8 Gilets jaunes. Alors, même si on a beaucoup de mal, il faut bien le dire, y compris dans les médias, à trouver des porte-paroles. Entre guillemets, le mot porte-parole, beaucoup ont, c'est l'expression consacrée, poser un lapin au Premier ministre. L'un est venu 5 minutes, un autre s'est entretenu discrètement. Robert Namias.
C'est pas une bonne séquence pour Édouard Philippe. Ça rappelait étrangement une autre séquence qui avait été épouvantable pour François Hollande, pour le président, là, et pas pour le Premier ministre. Qui était l'affaire Leonarda. On a eu un peu le sentiment comme ça d'avoir un Premier ministre humilié comme l'avait été François Hollande. C'est pas une bonne séquence parce que un Premier ministre qui vient sur le perron expliquer qu'il a eu un très bon débat, mais un débat avec qui ? Un débat avec une personne, c'est pas un débat, une personne, c'est un éventuel échange, un éventuel dialogue, etc. Et moi, je pense que c'est pas non plus une bonne séquence pour les Gilets jaunes. C'est pas du tout une bonne séquence pour les Gilets jaunes parce que, je pense qu'on va y revenir tout au long de cette demi-heure, mais en fait, quand on n'arrive pas, à un moment donné, je ne sais pas s'il s'agit de négocier, mais au moins, il faut avoir des représentants pour discuter. On ne peut pas à la fois demander à être reçu par le président de la République, qu'il a peut-être bien fait de ne pas souhaiter les recevoir pour avoir ce résultat, et puis par le gouvernement, et en l'occurrence, pouvoir l'être par le Premier ministre, et être incapable, finalement, de s'organiser. On a là l'impression que ce mouvement, finalement, est sans tête, ça c'est un fait objectif, mais également, c'est un mouvement qui va se déliter au fil des jours s'il n'arrive pas à se structurer. Or, manifestement, aujourd'hui, il a signé son incapacité à se structurer.
Michel Cotta.
Oui, parce que il demande des choses, il demande un certain nombre assez disparates hein, de réformes sur tous les sujets, qu'il s'agisse de pouvoir d'achat, taxes, impôts, etc. Mais il faut bien qu'ils s'adressent à quelqu'un. Ils n'ont pas l'impression, ils ne peuvent pas avoir le sentiment que tout ça changera parce qu'ils sont dans la rue. Il faut bien à un moment donné qu'ils négocient. Or, c'est cette négociation qui est impossible à faire, d'autant qu'on l'a appris tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez dit à 18h, que beaucoup de ceux qui seraient venus ont été menacés par les réseaux sociaux. C'est quand même le contraire de la démocratie. C'est le contraire de la démocratie. Alors, je veux bien que ce soit un mouvement moderne qui ait besoin de réfléchir, de s'incarner. Mais en attendant, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut être là.
Catherine ?
Oui, l'originalité des Gilets jaunes, c'est que ça a été un grand mouvement spontané qui a couvert à peu près tout le territoire. Bon, là, on est à l'acte 3 des manifestations, ça le sera demain. Bon, là, maintenant, les Gilets jaunes, leur nombre se réduit, il y a encore des sites qui sont occupés, mais enfin, de moins en moins. Mais quand on dit qu'il faut s'organiser, mais comment, quand on part de rien, on s'organise ? Parce qu'il faut déjà une technique. S'organiser, c'est très, très difficile. On s'organise quoi ? Par département, puis après par région, puis les régions après, on décide de trouver des représentants pour n'en trouver qu'ils partirent 500, ils se retrouveraient à 5 pour aller à Matignon. C'est impossible. Alors, des gens se dévouent parce qu'ils se croient autorisés. Chacun, chaque gilet jaune, au fond, est représentatif de quelque chose. Et ceux qui y vont, maintenant, on la trouille parce que ce sont les plus radicaux qui continuent de parler et de leur faire peur. Alors, moi, je dis, c'est vrai que j'ai trouvé au contraire, aujourd'hui on dit c'est un fiasco pour le Premier ministre. Moi je trouve que le début de la semaine a été un fiasco parce que quand on l'entendait c'était de l'élixir de Juppé droit dans ses bottes qui disait non à tout aux propositions du leader de la CFDT, on donne pas de coup de pouce au SMIC et puis qui parlait du chèque énergie pour aussitôt se faire contrer par le président qui a dit qu'est-ce que ça veut dire le chèque énergie, on n'y comprend rien, et aussi par la ministre Pénicaud qui a dit mais si, il va y avoir un coup de pouce significatif du SMIC parce que compte tenu de l'inflation et tout ça. D'ailleurs, on va bien voir si les gens ne seront pas déçus en janvier. Mais voilà, donc c'était plutôt au moment où il était plus mou dans ses bottes, plus ouvert, plus souple, mais qu'il n'a pas trouvé d'interlocuteur. Mais ce n'est pas sa faute non plus.
C'est pas, vraiment, c'est, là, pour le coup, on peut ouvrir les bras, on peut ouvrir la discussion. Si personne ne vient, c'est difficile. Et puis, personne ne vient, mais il faut bien dire aussi que moi, ce qui m'interpelle, c'est le soutien de tous les partis politiques à ce mouvement qu'il s'agisse des partis politiques de la droite, de la
droite, de Mélenchon à Le Pen, les Républicains.
Mélenchon,
ça s'appelle de la récupération.
Ouais. Alors, c'est vrai que ça s'appelle la récupération, d'autant qu'on voit bien que lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « mais moi je vais y aller parce que c'est le peuple samedi »,
mais il veut pas être reconnu. Alors moi je sais pas s'il va y aller avec une fausse moustache et un peu
et un béret rouge. Il reçoit une flopée de mails et de tweets qui lui disent si tu viens, on te fera sortir. Donc on voit bien que c'est un mouvement qui exclut la politique, quelle qu'elle soit, même s'ils se sentent plus attirés, qui exclut la politique, qui exclut les syndicats. Bon, à un moment donné, tout de même, il va falloir qu'ils s'organisent. Or, quand on voit que même La France En Marche, même avec les succès qu'elle a eu, a un mal formidable à s'organiser en partant de rien comme parti politique, c'est vrai que c'est très difficile de s'organiser en partant de rien.
Robert Namias.
Moi, ce qui me frappe, c'est que, au fond, il est tellement atypique, comme on le dit depuis 3 semaines, ce mouvement. Il est tellement sans précédent, sans référence. On n'a aucun moyen d'en évaluer vraiment l'ampleur. Quels sont les moyens aujourd'hui et comment peut-on parler de ce mouvement en disant c'est un grand mouvement populaire, etc. Des sondages. Voilà, des sondages. C'est tout ce que l'on a. Parce que par rapport à un mouvement organisé, par rapport à un mouvement qui a des objectifs précis et ciblés, soit définis par les syndicats, soit définis par des partis politiques, etc., on peut chiffrer, notamment par le biais de manifestations, dans la rue, on voit s'il y a 500 000, 1 million, 300 000. On peut évaluer le mouvement. Les mouvements de grève, on peut en évaluer également la consistance, le périmètre, la puissance. Là, vous évaluez. On dit ils sont soutenus par 84% des Français. Mais enfin, bon, ce sont des sondages. Dans la réalité, il n'y a pas, objectivement, on verra demain. Je parle avec beaucoup de prudence parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain réserve avec ce type de mouvement. Mais pour l'instant, par rapport à un mouvement populaire qui créerait une véritable situation de blocage dans un pays comme le nôtre, ce qui est déjà arrivé, on cite 68,
enfin, plusieurs reprises.
C'est arrivé en 95, c'est arrivé au moment des mouvements sur les retraites, etc., en 2010. Avant d'être dans une situation de blocage, faut-il encore qu'il y ait effectivement des mouvements de rue, des mouvements dans les entreprises, etc. Il n'y a rien de tout cela. Donc, il y a incontestablement une exaspération très largement partagée, mais qui ne se traduit pas, encore une fois, politiquement par un vrai mouvement populaire.
Il est 19h37. Europe 1. Et vous restez avec nous, le débat qui continue autour des Gilets jaunes. Je vois qu'il y a des appels qui arrivent au 39-21. On va vous prendre en direct avec les grandes voix ce soir pour essayer de comprendre aussi. C'est important ce que disait Robert Namias. On verra aussi si le mouvement peut s'élargir. C'est une question qui se pose. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à prendre la parole.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, vous écoutez les grandes voix d'Europe 1. Catherine Ney, Robert Namias et Michel Cotard.
Michel, nous parlions en antenne de celui qui était mon invité à 17h15 tout à l'heure. Il s'appelle John Christophe Werner et il a monté le groupe Les Foulards Rouges. Il y a aussi une division parce que quand on parlait des 84% de Français qui soutiennent les Gilets jaunes, c'est sur le principe. Quand on parle des blocages, voilà. Là, ils ont moins de supporters.
Quand on parle des blocages, et par exemple, donc, vous aviez le représentant des Foulards Rouges qui disait « Mais ce week-end, c'est la plus grande distribution de vivre qu'on fait, on a besoin de les faire,
la
donc il ne faut pas être empêché.
Ça, oui, ça c'est aussi les gilets oranges, on s'y perd. Hein. Oh, mais c'est vrai qu'il y a aussi les non mais c'est important, les collègues de banque alimentaire.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, on met les foulards rouges et les gilets oranges, on s'aperçoit quand même que quand il y a un blocage, il y a quand même des Français qui réagissent contre ces blocages. Alors, c'est les commerçants des Champs-Élysées, c'est
les grandes surfaces
qui ne comprennent pas. Bon, c'est-à-dire,
t'as moins d'un mois de Noël.
Et ça veut dire, ça dénote quand même un mouvement, justement, sans quand même structure. Parce qu'au fond, ceux qui se bloquent les supermarchés, c'est parce qu'ils bloquent la consommation. Or, le pouvoir d'achat, c'est justement pouvoir accéder à la consommation. C'est-à-dire, tout ce qui se passe est quand même plein de paradoxes, et donc ça veut dire que, et pour les Gilets jaunes et pour le gouvernement, ce sera très difficile de trouver un langage commun.
Catherine Ney,
Oui, mais quand il y a une crise comme ça, il faut trouver une proposition pour en sortir. Quoi. Les gens en ont marre des taxes. Alors bon, Muriel Pénicaud annonce qu'il va y avoir un coup de pouce pour le SMIC significatif.
Ça
mais ce
bien,
matin, De Rugy a annoncé que peut-être il n'y aurait pas l'augmentation du prix de l'électricité qui est annoncée pour janvier. Parce qu'en janvier, il va y avoir toujours les taxes pour le carburant. Il y a en plus, comme sur les feuilles de paye, avec la retenue à la source, il y aura moins d'argent. Ça va être quand même un mois de janvier difficile pour les gens. Mais il faut trouver quand même quelque chose. Il n'y a jamais aucune crise, même qui n'est pas sans représentant pour l'instant, qui ne se solde pas par une négociation sur quelque chose.
J'ai eu François de Rugy il y a une heure au téléphone. La question qui se pose autour des concertations territoriales qui ont été annoncées par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'était est-ce que cette taxe-là peut être gelée pendant 3 mois, le temps de cette concertation ? Est-ce que c'est à l'ordre du jour ? Il me répond, mais c'est bien sûr que c'est à l'ordre du jour, mais ça coûte l'argent qu'on doit donner pour la conversion vers de nouveaux véhicules.
Il ne parlait pas de l'électricité, il ne parlait pas de la hausse de l'électricité.
Ça, c'était ce matin.
La hausse de l'électricité, comme vous savez, ça a été,
ça a été rendu obligatoire
par un avis du Conseil d'État. Donc, à mon avis, ça doit être difficile de le geler, mais s'il y a quelque chose à geler, c'est bien ça.
Robert Namias.
Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la suite de ce que nous disions tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, on ne voit pas comment ce mouvement s'organise, va s'organiser et est capable de s'organiser, alors que chacun, finalement, dénie à l'autre, et même à son voisin le plus proche, d'être représentatif de qui que ce soit. C'est un vrai problème. Bon. Donc, on peut même imaginer qu'un mouvement qui ne s'organise pas finit par se déliter. Mais je dirais que c'est presque plus grave que s'il y avait vraiment à un moment donné un vrai dialogue avec l'obligation pour le gouvernement de lâcher des choses.
Il faudrait que ça s'organise. Il faudrait qu'il y ait...
En tous les cas, ce que je dis simplement, c'est que le risque que ce mouvement se délite au fil des jours, parce que effectivement, d'abord, il y a l'approche des fêtes, mais même au-delà des fêtes, simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas le droit, en quelque sorte, de s'organiser, que ça n'est pas relayé parce que c'est trop confus, trop complexe, trop fourre-tout, que ça n'est pas relayé ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Le risque, c'est un gouvernement, parce que, franchement, le gouvernement ne peut pas rester dans cette situation, car même s'il y a délitement, même s'il y avait extinction provisoire de ce mouvement, l'exaspération manifestée par ce mouvement, elle est très réelle. La fatigue devant le fait de ne pas obtenir jamais satisfaction, de ne jamais pouvoir avoir un dialogue constructif, ça existe, ça continuera d'exister, ça va même être amplifié. Donc si on a un pouvoir qui s'isole de plus en plus, pensant avoir gagné parce que le mouvement délitait, on sera dans une situation plus grave encore. On n'en est pas là.
Mais c'est quand même
le risque que moi je pressens derrière tout ce qui se passe depuis quelques jours.
C'est pour ça, moi, je reviens à ça, mais c'est pas de l'actualité d'aujourd'hui, mais c'est pour ça que la proposition de Laurent Berger a été, à mon avis, écartée trop vite. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire un Grenelle, monumental, bon, mais il s'agissait quand même de fournir l'occasion à des gens de venir participer à une réunion. Ils seraient venus, ils ne seraient pas venus, mais justement, au moins, la proposition était positive et c'était un risque de sortie et je trouve que, malheureusement, ça a été refusé.
Oui. Organisez-vous. Alors, qui leur dit il faut vous organiser ? C'est François Hollande, qui est le conseiller des Gilets jaunes, qui va du Tarn, qui leur dit, voilà, qui leur dit de s'organiser, parce que c'est vrai. Mais ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu ce jeune qui est venu à Matignon, dont j'ai oublié le nom, et qui avait tellement peur qu'on lui casse la figure à la sortie, qui était très virulent à la télé, c'est un autre porte-parole du Vaucluse, qui s'appelle Christophe Chalençon.
Et qui était ici, assis dans votre siège hier soir.
Oui, ben, très bien, mais qui n'est pas lui qui a déjà essayé de s'organiser, parce qu'il était candidat en 2017 sur Génération Citoyen. D'ailleurs, il avait fait un beau score de 0,63% et il avait soutenu le candidat En Marche, Macron. Et il s'était réjoui. Alors c'est un déçu du macronisme.
Non, mais quand je lui pose la question très clairement hier, je lui dis, mais voilà, mais il y a plein de revendications, il y a plein de choses, mais si demain le gouvernement annonce la fin de cette taxe sur les carburants, votre mouvement il est fini. Il me dit non,
Non, on veut la chute du gouvernement.
Oui, c'est ça. Il veut la dissolution de l'Assemblée nationale aussi, et du Sénat. Aussi. Et il dit qu'il a une armoire de revendications.
Voilà. 19h46. Europe 1. Il va falloir du temps pour lire aussi toutes ces revendications et du temps pour bien comprendre ce que c'est que ce mouvement. Le débat continue jusqu'à 20h avec les grandes voix sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et le vendredi soir, vous avez rendez-vous avec les grandes voix d'Europe 1. Catherine Ney, Robert Namias et Michel Cotta.
Alors, avec cette affaire des gilets jaunes qui nous occupe, on va entrer dans la troisième semaine, troisième week-end de mobilisation. Là, oui, bah beaucoup, beaucoup. Le mot gilets jaunes, voilà, on en parle beaucoup. C'est une réalité en même temps, ils l'ont choisi, ils font le débat, ils font l'actualité, c'est une réalité aussi. Il y a quand même aussi toute une séquence. On a parlé du remaniement, on a parlé de Nicolas Hulot, de Gérard Collomb, il y a eu l'affaire Benalla. Comment, par exemple, Emmanuel Macron, derrière ce mouvement des Gilets jaunes, qu'il s'essouffle ou qu'ils obtiennent gain de cause, comment est-ce qu'il peut passer une réforme des retraites l'année prochaine?
C'est tout le problème. Est-ce qu'il est encore capable d'imposer un certain nombre de réformes? Alors, il y a bien sûr des gens, des spécialistes comme Jean-Pierre Levade qui dit le quinquennat est fichu, le quinquennat est fini même. Alors, est-ce que la question se pose?
Mais il a toujours dit que les quinquennats précédents, au bout de 10 mois, tout était fini.
Alors, ceci étant, il y a des réformes difficiles. Celle de la réforme des retraites est difficile.
Celle de la fonction publique.
La fonction publique. Voilà. Bon, est-ce que dans l'état actuel, il a assez d'autorité pour le faire? Moi, je n'en suis pas sûr. Alors, évidemment, ça dépend de la sortie de crise. S'il y a une sortie de crise convenable, oui, tout peut se réparer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se demande ce qui se passera dans les dernières années du quinquennat, surtout après des élections européennes, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont aléatoires, parce que on voit bien que dans ce mouvement des Gilets jaunes, dans les mouvements, il y a quand même beaucoup de mélanchonistes et encore plus. De Front National, de Mouvement National.
Peut-être qu'il y aura une liste des Gilets jaunes. Hein,
oui, non, mais il y a des études qui montrent qu'il y a donc 5% de déçus du macronisme. C'est très important aussi parce que ces 5%, ils ne seront pas sur Emmanuel Macron ni peut-être sur les listes européennes. Donc c'est vrai qu'on est dans un nœud particulièrement difficile, un nœud gordien où il faut peut-être trancher, mais en attendant, tant qu'on ne tranche pas, on est dans une période très difficile pour le président de la
République.
Même
dans sa majorité, des députés commencent à changer un peu
discours. Parce qu'ils vont sur le terrain. Et donc, Robert Namias. Ils voient bien.
Moi, je crois que de toute façon, on est dans un moment d'irrationnel dont il faudra sortir. La vraie difficulté qui fait d'ailleurs qu'au bout de 3 semaines, non seulement les politiques, mais les commentateurs plus encore, ont du mal à dire des choses qui soient encore fondées, c'est qu'on est dans un tel irrationnel, encore une fois sans référence, que c'est très difficile de savoir ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est que irrationnel du côté des Gilets jaunes, on le voit bien, impossibilité de s'organiser réellement, ce qui est le propre d'un mouvement populaire, quand même, à un moment donné, il a un chef, et il s'organise, il discute, il négocie.
Mais c'est la première fois qu'il y a un mouvement comme ça aussi,
dans les
sur tout le territoire.
Qui sont contradictoires, qui rassemblent à la fois des propositions que pourraient reprendre les Insoumis, beaucoup d'autres que pourrait reprendre le Front National, donc qui sont quand même très souvent très, très contradictoires. Mais irrationnel aussi du côté du pouvoir politique. Je veux dire, quand on voyait cette nuit le président Macron expliquer qu'il n'y avait pas de recul possible, que ça ne pouvait être lui parce que précisément il était issu d'un autre monde et qu'on avait trop reculé depuis 30 ans, il fallait sortir de ce monde. Bon, très très bien. Mais on se dit, le président est nu et il va finir absolument seul. Donc il faut qu'il y a presque un caractère irrationnel, irraisonné dans ce durcissement du président de la République à ne vouloir absolument pas reculer. Je ne recule pas, je ne recule pas, je ne recule pas. Il ne faut peut-être pas reculer, mais il faudra de toute façon avancer. Et donc, comme on devra sortir de ce double irrationnel, moi je pense qu'on ne pourra en sortir que par une voie qui a d'ailleurs été tracée, il faut bien le dire, par le président de la République. Mais est-ce qu'elle est encore jouable? Il faut l'espérer. De toute façon, il y aura bien une solution à un moment donné. C'est par le dialogue avec les territoires, par l'intermédiaire des élus, par l'intermédiaire des maires. Ce sont les maires qui peuvent réconcilier, ça a l'air idiot comme ça, mais ce sont les maires qui pourront réconcilier les Français avec leurs élus, qui pourront en quelque sorte les inciter à ouvrir ce dialogue. Ça n'est pas le gouvernement, ce sont les maires, ce sont les communes, ce sont les territoires.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il va être gêné pour faire sa politique et comment pas reculer. Enfin, pour l'instant, il dit on continue, mais ça rappelle un peu les chants d'opéra, marchons, marchons, et on fait du surplace, quoi. Mais on va voir s'il va pouvoir le faire. Que
Robert, ben, si on organise des tables rondes où il y aura un élu local, il y aura
un syndicaliste
qui en sorte quelque chose. Les gilets jaunes, ça va être.
Si les gilets jaunes n'y vont pas, déjà, ils ont perdu, là.
Mais oui, on peut toujours dire qu'on va discuter comme ça. Non, un des problèmes, quand même, c'est que Emmanuel Macron ne reçoit très peu les députés En Marche, qui déjà sur le terrain ont beaucoup de mal à rencontrer les gens, parce que c'est souvent des gens qui sont sortis de rien et qui ne connaissent pas la population, qui vont sur les marchés, qui se présentent, ah bon c'est vous notre député, tout ça, qui sont un peu, qui n'ont pas l'ancrage qu'ont eu des députés maires qui ont travaillé le terrain depuis longtemps, mais qui quand même sont les échos, on leur dit des choses, mais après, lorsqu'ils reviennent à l'Assemblée, qui les écoute ? Pas tellement le président de groupe qui disent bon mais vous obéissez aux ordres et vous votez les lois. Et en tous les cas, ils ne sont pas écoutés en haut lieu, ni à Matignon, ni à l'Élysée. Et donc, il y a aussi ce sentiment, eux aussi, de ne pas être écoutés.
Michel Cotta, dernier mot.
De toute façon, moi, je trouve qu'il y a une part d'improvisation énorme dans la façon dont cette taxe carbone a été présentée. Parce que ce n'est pas un hasard. Si depuis Nicolas Sarkozy, qui avait fait voter une taxe sur le carbone... Qui a
à
été,
la demande de Nicolas Hulot, c'est la facture de Nicolas Hulot.
Laquelle loi a été... abrogé par le Conseil constitutionnel. Après, Hollande a fait ce qu'il a pu. On a vu Ségolène Royal défaire les panneaux. Et puis, c'est-à-dire que cette taxe écologique passe si mal qu'il fallait sans doute s'y prendre autrement qu'en ajoutant au prix de l'essence, à la montée du prix de l'essence, la montée de la taxe écologique. C'est vrai qu'on est arrivé à quelque chose d'incompatible entre l'économie et l'écologie, c'est embêtant.
Une forme d'impasse, on verra. Nous n'allons pas rester sourds et muets, m'a dit François de Rugy tout à l'heure, parce qu'ils ont beaucoup dit qu'il fallait écouter, qu'il fallait entendre. Nous n'allons pas rester sourds et muets.
Oui.
Et muets,
je retiens le muet.
Que vont-ils dire maintenant lundi ? Nous verrons. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Nous n'allons pas faire de pronostics. Je vous remercie en tout cas, les grandes voix, mes chères grandes voix, d'être venues ce soir dans ce tout nouveau studio d'Europe 1.
Très
Michel
beau.
Cotta, Catherine et Robert Namias, merci à vous trois. Émilie Mazoyer est là. Bonsoir Émilie. Émilie, m'entends-tu ? Émilie Mazoyer dans le studio Coluche. Après, je sais pas, moi, je peux continuer sur les gilets jaunes.
Je suis arrivée. Mais vous savez que ces nouveaux studios, je m'étais un peu trompée de sens dans le couloir.
Ah oui, d'accord. Oui, mais je me perds parfois. Je me perds parfois aussi. Et parfois, je fatigue. Là. Si vous savez où il y a une machine à café, je suis preneur.
On va vous trouver ça. Et vous voulez savoir ce qu'on va écouter ce soir ?
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ah, du bonheur. Sailors fighting in the dance hall. Look at those cavemen go. David Bowie live, c'est son concert de Glastonbury en l'an 2000. Donc il n'a pas pu être là ce soir pour des raisons évidentes. Mais comme le vendredi on fait le banc d'essai des nouveautés musicales, c'est un des albums qui est sorti ce matin qui est absolument magnifique.
C'est
on va en parler.
Sorti ce matin ça ?
Oui, ouais, ouais, le concert de Glastonbury en l'an 2000.
Mais j'avais reconnu la chanson, je me disais mais qui chante Bowie ? Il le chante tellement bien, mais c'était Bowie.
C'était lui.
Merci beaucoup Émilie Mazoyer et très belle soirée, ça a l'air bien parti. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui ont participé à ce grand journal tout au long de la semaine. Merci à toute l'équipe d'ailleurs qui a aidé à la préparation de ce grand journal du soir. Dora, Stéphanie et Marc en particulier qui ont célébré chacun leur tour leur anniversaire cette semaine. On les embrasse et on bline à lundi.
Oui.
Vous allez dire à demain.
À lundi. Non, à lundi. Mathieu Béliard, merci. À partir de 17h, dans un instant, l'information avec Valentine Desjeunes sur Europe 1. Europe 1.